CIORadio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et de la transformation digitale, co-animée par Patrice Clèche et Richard Fremder, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique, et TNP Consultant, accélérateur de performance.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIORadio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à CIORadio.tv. Nous vous remercions bien sûr d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine sur tous nos podcasts et vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CIORadio-TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Thierry Cartala, partenaire au sein de TNP Consultant.
Bonjour.
Bruno Buffenoir, Area Vice-Président France de ServiceNow.
Bonjour.
Et Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de CIORadio.tv.
Bonjour Patrice.
Richard, aujourd'hui nous allons parler stratégie.
Effectivement Patrice, puisque nous recevons Christophe Legrenzi, président d'Acadis International, conseiller du commerce extérieur de la France et co-auteur de l'ouvrage Pilotage du système d'information et de la transformation digitale. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors vous êtes né à Mulhouse, vous êtes ingénieur en informatique, docteur en sciences de gestion et vous commencez votre carrière à la R&D chez BASF. Alors pour moi, BASF, qui suis vieux, hein, ça reste les cassettes audio, les cassettes vidéo, mais alors pas du tout la R&D.
Alors effectivement, à l'époque, BASF était la première entreprise industrielle européenne et j'étais très intéressé de commencer chez eux. Pourquoi ? Parce que j'étais pas très bon en langue. Et le fait de pouvoir rencontrer un milieu international, à la fois bilingue, anglais, allemand, m'a vraiment attiré au-delà du savoir-faire et du professionnalisme de nos amis teutons.
Et R&D, à cette époque-là, blague à part, ça voulait dire quoi ? On était déjà alors, au-delà, forcément.
Alors R&D, ça voulait dire, comme aujourd'hui, recherche et développement.
Non, mais bien sûr, mais...
Et en fait, ils travaillaient déjà sur des problématiques. J'étais dans la division qui travaillait sur ce qu'on appelle tout ce qui est, pour les capots, vous avez ce qu'on appelle les résines de synthèse, en fait. En allemand, j'avais le terme allemand, c'était le palatal. Et ils commençaient donc cette direction avec tout ce que ça signifiait. Et la problématique qu'ils avaient en informatique, c'était tout simplement de gérer des dizaines d'années de recherche qu'ils souhaitaient mettre à disposition de leurs ingénieurs.
Très bien. Alors, vous allez changer d'industrie pendant 5 ans dans un laboratoire pharma, Roche, pour ne pas le nommer. Et depuis 2000, vous êtes DG puis président d'Acadis. C'est quoi ce cabinet exactement ?
C'est un cabinet un peu iconoclaste parce que par rapport, évidemment, c'est un cabinet de conseil et d'audit comme il y en a des milliers. Simplement, on investit 10% de notre chiffre d'affaires dans la R&D. Et on a un motto depuis le début, c'est d'essayer de faire mentir le paradoxe de Solow. Alors, qu'est-ce que c'est que le paradoxe de Solow ? Solow était un prix Nobel d'économie en 1987 qui a tout simplement questionné la valeur issue des investissements informatiques.
Très bien. Alors, en 2008, vous êtes même conseiller, je le disais en intro, du ministre du Commerce extérieur. C'était qui ? Anne-Marie Idrac, c'est ça, à l'époque ?
À l'époque, c'était elle, oui.
C'est là que tout se passe ou alors c'est extrêmement frustrant parce que c'est là que tout... On aimerait que tout se passe, mais que ça ne se passe pas.
Bonne question. Alors, vous savez que le commerce extérieur a d'abord pour but d'aider nos entreprises à mieux performer à l'étranger. Et c'est vrai que c'est une branche du ministère de l'économie et des finances. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises, j'ai par exemple vécu 4 ans en Australie, on voit 3 fois plus de PME allemandes que françaises. Donc c'est toujours un peu une frustration quand on connaît les savoir-faire que l'on a ici et notre difficulté à les vendre à l'international.
Et enfin, c'est la 4e édition de votre livre chez Duno, donc Pilotage du SI et de la transformation digitale au prix de 29 €. Vous savez, on prend 10%. Pourquoi ce livre ?
Alors, en fait, il fait suite à... C'est toute une histoire. À la base, personne ne voulait l'écrire. Pour être clair et direct, on avait de nombreuses propositions, à la fois d'Hérold, de Duno, pour écrire ce livre sur les tableaux de bord, qui était finalement pas mal demandé par les DSI. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté. Et comme j'étais jeune, je me suis dit, allez, je risque l'écriture. Et finalement, ça ne s'est pas trop mal passé, puisque dans l'année où il est sorti, il a eu le prix du meilleur ouvrage de management des systèmes d'information.
Christophe, pour vous, le management idéal, il est directif, participatif ou est-ce qu'il est délégatif ?
Je pense les trois à la fois. Je pense que des fois, il doit être directif, surtout dans des temps troublés. On sait que le meilleur management, c'est celui qui sait où il faut aller. Il doit aussi être évidemment participatif, puisqu'on a au sein des DSI tellement de savoir-faire, de connaissances, qu'il est dommage de ne pas en profiter. Donc je dirais qu'il est il doit aussi être fédératif, parce que malheureusement, le DSI ne fait pas tout dans une entreprise. Il a, il a une hiérarchie et doit aussi respecter cette gouvernance-là.
Une première question, Thierry.
Oui, alors j'avoue que vous êtes attaqué à un sommet, parce que les tableaux de bord de l'informatique, je crois que nous, consultants et DSI, on adore ça. Mais donc, on a tout mesuré en matière de productivité, en matière d'efficacité. Ça m'intéresserait de savoir si vous avez une version actualisée avec l'innovation numérique. Comment on mesure aujourd'hui l'apport de l'innovation numérique ou effectivement du digital et comment on arrive à convaincre un directeur général d'investir?
Alors là, on est sur une question lourde, effectivement. Alors, je crois que le point de départ, je crois qu'il faut avoir conscience qu'on a beaucoup investi dans ces technologies. Et effectivement, je vais revenir à Solo. La grande difficulté, c'est de montrer aujourd'hui la valeur. C'est-à-dire que tous les DSI sont vraiment en mesure de donner à quelques pourcents près la dépense informatique au sein d'une entreprise. Par contre, peu connaissent la contribution à la performance. Et ça, je crois que c'est un enjeu qui va devenir de plus en plus prégnant pour les années à venir, et en particulier d'innovation. Alors, c'est vrai que la valeur, elle est au moins, je simplifie toujours en disant, elle est à double titre. D'abord, on a une valeur d'optimisation, c'est de réduction de coûts. Et là, l'informatique a une vraie contribution à apporter au business. Mais il y a aussi une valeur, vous le soulignez, d'innovation, c'est-à-dire d'amener de nouveaux services à valeur ajoutée. Et même cela, on voit qu'on a peu d'indicateurs aujourd'hui pour les suivre. Et en même temps, ce n'est pas toujours les DSI qui sont attendus, puisque vous savez que les métiers et la direction générale s'accaparent aussi ce sujet. Et donc, on a un vrai problème de gouvernance sur la notion de valeur.
Bruno ?
On peut parler d'une seule, finalement, méthodologie pour mesurer la performance du SI et de la transformation digitale ?
Alors, ça aussi, c'est une question qui n'est pas simple. En fait, beaucoup d'experts viennent avec leur propre méthode. C'est vrai que j'en cite sept dans l'ouvrage, sept approches différentes. Celle, sans doute, qui est aujourd'hui la plus connue, elle n'est pas à la base appliquée en informatique, c'est la méthode de la balance scorecard. Elle est intéressante parce qu'effectivement, on a tous les axes, hein, les axes aussi bien financiers, valeurs, que clients, que performance opérationnelle et justement sur le futur. Donc, si je devais en citer qu'une, ce serait celle-là. Je pense que c'est aujourd'hui la plus complète, parce que ce qu'elle amène en plus, c'est qu'elle met en perspective le système de pilotage avec la stratégie. Et ça, peu d'auteurs l'avaient réussi avant, ou l'avaient vu, en tout cas. Et ça permet, en tout cas, de ne pas avoir un décalage entre les indicateurs de performance et la stratégie d'entreprise.
Thierry ?
Alors, on a parlé de système de pilotage, effectivement, de performance. Du coup, est-ce qu'il y a une dérivée pas naturelle de votre ouvrage sur les indicateurs, sur la gouvernance ? Parce que si on change les indicateurs, c'est qu'il faut gouverner différemment, non ? Ou alors j'ai rien compris ?
Non. En fait, vous avez tout compris, parce que ce qui est intéressant aujourd'hui dans l'équation de la valeur, il y a eu différentes vagues de recherche. La première, elle pensait qu'il y avait un optimum dans l'investissement informatique. Hein, c'est les fameux budgets informatiques sur chiffre d'affaires. En fait, toutes les études depuis les années 60 sont non conclusives. Il n'y a pas aujourd'hui de corrélation entre le montant de l'investissement ou du fonctionnement et la performance d'une entreprise. Après, il y a une deuxième génération qui pensait que c'était lié aux technologies employées. Et là, une nouvelle fois, les chercheurs n'ont trouvé aucune corrélation digne de ce nom. La seule corrélation qui a été identifiée, elle est toute récente, elle date d'une douzaine d'années, elle est justement basée sur la maturité en matière de gouvernance informatique. Et là, le premier indicateur de la maturité, il y a aujourd'hui des définitions officielles, et on en parle notamment dans l'ouvrage, c'est l'implication du DG. Aussi bête que cela puisse paraître, plus le DG s'implique, plus l'entreprise a tendance à créer de la valeur.
Bruno ?
Et est-ce que vous avez parlé de l'Australie tout à l'heure, est-ce que vous voyez des grosses différences de maturité entre les différents pays ou entre les différentes cultures ?
Oui, clairement. Effectivement, l'Australie, de par sa spécificité et un peu au bout du monde, down under, comme on dit là-bas, a très vite numérisé les services de l'État. On cite l'Estonie, mais on pourrait citer l'Australie à la même époque. Donc tous les téléservices sont totalement opérationnels depuis plus de 20 ans, 25 ans à peu près. On le voit aussi sur l'éducation, l'e-learning sont très très en avance, on peut faire des MBA en ligne depuis près d'un quart de siècle. Donc c'est vrai qu'ils sont assez impressionnants. Et le CIO en Australie, c'est un peu comme aux États-Unis, fait systématiquement partie du board. Enfin, du COMEX, pardon, ce qui est encore loin d'être le cas en France. Je crois que si j'ai les derniers chiffres sont justes, je crois qu'il n'y a que 10% des CIO français du CAC 40 qui font partie du COMEX. Donc là, on a un vrai retard par rapport à ça.
Bruno ?
Et quand on parle finalement d'accélération de la transformation numérique dans les instances gouvernementales, est-ce que pour vous l'État plateforme est un concept qui doit permettre cette accélération ?
Alors l'État plateforme est effectivement un très bon concept, en tout cas si derrière il y a tous les services et surtout, comme par exemple l'Estonie l'a fait, c'est de dire que la donnée est au centre, parce que c'est à la fois une question de service, mais c'est aussi une question de données. Vous savez qu'un des concepts de base estonien, quand Martlar, justement le Premier ministre, a pris le pouvoir, et c'est lui qui est à la base de la transformation justement numérique de l'État, ça a été de dire que je ne demande qu'une fois l'information aux citoyens. Après, c'est à moi, État, de la partager. Et vous imaginez bien que ça transforme complètement à la fois l'architecture du système d'information, mais aussi le monde.
Tiens, une dernière question.
Donc, en conclusion, un directeur général, si on doit lui vendre l'informatique, il faut qu'il retienne quel indicateur ?
Alors, je pense qu'il y a un indicateur très intéressant que je cite beaucoup dans le livre. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu le Grand Prix. C'est pas la dépense informatique qui est intéressante, mais la dépense du numérique. Qu'est-ce que pèse le poids du numérique au sein de l'entreprise ? C'est-à-dire autant l'informatique, ça pèse entre, allez, on va dire 1,5 à 5 % de la dépense, hein, du budget d'entreprise. Autant le numérique aujourd'hui pèse dans le monde industriel lourd autour de 25-30%, et dès qu'on est dans les services, c'est plus de 50 à 70%. Donc je crois que s'il n'y a qu'un seul indicateur à suivre, c'est effectivement la dépense numérique et la dépense système d'information, qui elle est quasiment double que le budget numérique.
Christophe, sur un plan un petit peu plus personnel, on ne naît pas forcément DSI. Vous étiez l'un des meilleurs joueurs d'Europe de moins de 15 ans, football ?
Oui, alors 2-3 ans plus tard, c'était aux échecs. Vous voyez, c'est très éclectique.
Le sport et sport cérébral.
Et 5 ans avant, c'était non pas que, surtout, c'était avant ce qu'on appelait ski de fond à l'époque. J'étais dans les 3 meilleurs fondeurs français.
Ça aurait pu être des carrières possibles pour vous ?
Oui, mais ma famille n'étant pas forcément très sportive et très fanat, je reconnais que je n'ai pas été poussé.
Ça a été un frein, vous ne pouviez pas aller plus loin.
Peut-être même un accélérateur pour le reste.
D'accord. Alors, vous l'avez dit, vous avez vécu en Australie, vous avez donc énormément voyagé. Finalement, quel a été votre meilleur souvenir de voyage ? Est-ce que c'est vraiment l'Australie ?
C'est une question aussi intéressante, parce que je crois que le meilleur souvenir de voyage, j'en ai beaucoup déjà d'une part, mais surtout, on se rend compte que plus on voyage, plus on a la chance de vivre dans un pays fabuleux. Donc, mes souvenirs, je les ai tant en France qu'à l'étranger.
Et pour vous détendre, le restaurant, c'est un univers que vous aimez beaucoup, j'imagine.
J'aime beaucoup. J'ai tenté avec ma femme de se fixer un objectif. C'était un de nos tableaux de bord. C'était de faire, là, à l'époque, c'était les 20, 25, 3 étoiles Michelin. Je reconnais qu'il est atteint à 50%.
Ce qui est déjà pas mal.
Qui me laisse des marges de progrès.
Avec, pour le coup, peut-être un de ces restaurants à nous conseiller.
Ah, il y avait sans doute. Alors, c'est malheureux, parce que les deux que j'ai préférés, malheureusement, ne sont plus 3 étoiles. C'était Marc Vera, qui était absolument extraordinaire sur les plantes et autres. Et Olivier Rollinger, à Cancale, qui était aussi fabuleux. Et à des prix aussi plus abordables que nos 3 étoiles brillants, mais parisiens.
Et côté vin, alors, plutôt Jura, plutôt Bordeaux, Alsace,
forcément, Bourgogne. Alsace, hein. Forcément. On a la chance d'avoir 7 cépages nobles, extraordinaires, donc Alsace, mais évidemment, toutes les régions sont magnifiques, et c'est vrai, un petit coup de cœur pour l'Alsace, parce que je pense que les rapports qualité-prix vaut le déplacement.
C'est bien noté. Merci à vous, Christophe. Merci également à Thierry, Bruno et Richard. Fin de ce numéro de CIO Radio.tv. Vous nous retrouvez et vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de CIO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique, et TNP Consultant, accélérateur de performance.